célèbres Dieu encore, roi des cieux, nous t'invitons ce matin. Acclame Dieu. Amen. Louons-le.
Louons-le, roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés I'm
est venu l'adorer. On va chanter éveille-toi mon âme, éveille-toi, viens célébrer ton Dieu.
Tu n'es plus seul, mon âme.
conscient ce matin. Oui, mon âme, éveille-toi jusqu'à Dieu, jusqu'à son saint trône. Oui, éveille-toi, mon âme. Oh Jésus, Jésus, je te loue, je t'adore ce matin. Oh Jésus, mes frères, mes soeurs, est-ce qu'on peut lever nos voix ce matin et adorer notre Dieu? Oui, élève ton âme, toi qui ne parles pas souvent à Dieu, toi qui ne le loues pas souvent, toi qui ne lui parles pas souvent, du fond de ton être, élève ta voix et adore le roi des rois. Élève ta voix et célèbre l'Éternel des armées. Oh Jésus. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut faire monter des chants, monter nos paroles, nos voix à Dieu? Oui, faisons monter ce parfum qu'il aime tant. Oh Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Oh oui, Éternel des armées. Oui, Alpha et Oméga. Oui, commencement et fin. Oui, celui qui était, qui est, qui sera. Celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Celui qui guérit le paralytique, qui sauve, qui rachète, qui établit. Oh, élève-toi, oh Dieu. Oh, rebassa, rachète, rebassa, rabala. Oh, Jésus. Alléluia. Rebassa, rachète. Ton âme est fatiguée, ton âme est épuisée, tu ne sais pas quoi dire, tu ne comprends pas tout ce qui t'arrive, tu ne réalises pas ce qui se passe, tu vis une semaine difficile, tu as l'impression que les portes sont fermées. Ce matin, je t'invite à ouvrir ta bouche et à faire monter avec des mots, si tu en as, ton adoration à Dieu, et faire monter ce cri que tu n'arrives pas à exprimer à l'Éternel, parce qu'il attend cela de toi.
Sang de Jésus, rien ne peut sauver mon âme que ton œuvre à la croix. Merci Jésus.
Thank you.
le sang de Jésus. Toute mon espérance, toute ma foi, tout mon cœur. Est-ce que pendant quelques instants, on peut juste faire monter avec nos mots à Dieu notre reconnaissance, notre adoration. Pendant que l'équipe de Seine-Seine s'approche et ceux qui sont baptisés à rester debout, à se lever, on a l'habitude de garder les éléments ensemble et de les partager. Mais juste pendant quelques instants, est-ce qu'on peut juste dire Jésus, rien que ton sang, rien que ton sang, et faire monter ces prières à l'Éternel. Alléluia, Jésus. Jésus, merci pour le sang, merci pour la croix, merci parce que tu es mort à la croix pour moi et pour chacun d'entre nous ici présents. Merci Jésus parce que tu n'as pas de pareil dans les cieux comme sur la terre, nul n'est comparable à toi. Et par ce sang, toutes les tribus, toutes les races, toutes les nations, tous les peuples, nous dit l'Écriture, sont rachetés par ce merveilleux sang. Et nous te louons ce matin car tu en es digne. Alléluia. Que plusieurs élèvent la voix et adorent Dieu et on dira amen à leur adoration et à leur louange.
Je t'adore.
sauveur de mon âme. Je t'adore pour qui tu es.
Alléluia.
Je t'adore pour ton amour sans égal. Je te donne ma vie entière.
Dans Hébreux, au chapitre 12, du verset 1 au verset 4, il est écrit : Nous donnons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Dans ce merveilleux passage de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous rappelle de fixer les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Environné d'une très grande nuée de témoins, les héros de la foi. Imaginez-vous là dans un stade avec tout un stade rempli de héros, de Gédéon, de Daniel, de Joseph, d'Abraham, de tous ces géants de la foi, nos pères et en même temps aussi nos repères, en train de nous encourager, vas-y dans la course dans laquelle tu es lancé. Mais ils vont aussi qu'on traverse des situations difficiles, des épreuves, comme Jésus, tourmenté, malade, fatigué. On a l'impression que Dieu, que personne ne nous comprend et que Dieu ne nous exauce même pas. Et il nous donne cet encouragement. Porte le regard sur Jésus. Parce qu'on peut porter le regard sur plein d'autres choses. Sur nos difficultés, sur nos problèmes, sur nos maladies et sur tout ce qu'on vit. Elles sont existantes, bien sûr. Mais le regard d'être fixé sur Jésus. Parce que lorsqu'on regarde à lui, on voit la croix. Là où on croyait qu'il y avait de la défaite, il y a la plus grande victoire. Là où on croyait qu'on était désespéré, on voit l'espérance se manifester dans tout son éclat. À la croix, Jésus a tout accompli. Alors je ne sais pas comment tu es arrivé ce matin en ce lieu, mais je voudrais t'encourager à une chose. Regarde à Jésus. Porte tes regards sur Jésus. Car à lui, tout est possible. Et rien n'est impossible. Est-ce qu'on peut élever la voix quelques instants et dire, Jésus, ce matin, merci, 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 parce que je décide de porter le regard sur toi et sur personne d'autre. Qu'on ne prenne le pain et le vin, si quelqu'un a reçu une parole du Seigneur, qu'il la porte libéralement avec foi pour l'édification de l'Église.
Je vous accorde d'accord à cet instant, afin qu'il n'y ait personne à prier, Seigneur. Alléluia, Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Ce matin, nous t'élevons, Jésus. Oui, nous t'adorons ce matin, nous exaltons ton saint nom. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, merci pour le pain, merci pour le vin. Merci pour tout ce que tu as accompli, Jésus. Alléluia. Tu es venu ce matin, tu es fatigué parce que tu as l'impression d'avoir couru tellement longtemps et tu es sur le point de baisser les bras. Et ce passage d'Ésaïe revient simplement à mon esprit. Seigneur, je veux t'encourager en disant, ceux qui se confient en lui renouvellent leur force comme de l'aigle. Mets ta confiance en Dieu et ta fatigue en lui, tu trouveras une source nouvelle. Une source nouvelle. Ben, merci pour le pain, merci pour le vin. Merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Et parce qu'en toi, mon Dieu, tout devient nouveau. Merci parce que nous sommes plus... loin de toi, nous sommes proches de toi. Merci parce que nous décidons de porter nos regards, non pas vers nos difficultés qui sont réelles et qui sont présentes, mais décidons de porter le regard vers toi et vers toi seul, Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus, prenant le pain et la coupe. Et continuons de louer notre Seigneur quelques instants.
De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, je veux t'aimer, te rechercher et te donner ma reconnaissance. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, je veux t'aimer, te rechercher et te donner ma reconnaissance. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée.
Alléluia, Jésus, merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur pour qui il est? Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'avant de vous asseoir, vous pouvez juste saluer deux ou trois personnes et lui dire simplement, tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Et sois béni. Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue parmi nous, bienvenue à l'église Paris Métropole. C'est une joie pour nous de vous accueillir ici ce matin, ou ce midi plutôt. Et sentez-vous chez vous, c'est votre église, c'est la maison de Dieu. Je vous rappelle que vous pouvez justement prolonger ces moments juste à la fin du culte, au Café Communion, donc c'est juste au 42, quand vous sortez sous votre gauche, au 42, il y a un temps de communion fraternelle. Vous pourrez prendre un café, un petit gâteau, et surtout discuter avec les frères et sœurs, et parler ensemble, même prier peut-être ensemble, selon ce que le Seigneur vous met à cœur. Donc c'est un moment de qualité, on vous invite tous, juste à la sortie, au Café Communion. Nous entrons dans la semaine pascale, dont Paris fête Pâques, donc du 14 au 16 avril, donc ça commence à partir de vendredi prochain, avec une soirée spéciale au théâtre Déjazé à partir de 19h, donc avec le pasteur Bondo de la Borgne, de l'église de la Borgne à Kinshasa. On a tout un beau programme durant toute cette période de Pâques. Donc vendredi, ce sera un concert avec du gospel, avec plein de surprises et avec aussi un moment aussi d'évangélisation pour apporter le message de l'évangile et dire réellement ce que c'est que la Pâque aussi à tous ceux qui viennent. Donc on vous invite à inviter des amis, inviter des connaissances et ce sera vraiment un moment de célébration. Et dimanche prochain, on a un culte en commun. Ce sera au théâtre des Jazés. Donc dimanche prochain, Bastille sera fermée. Donc il n'y a pas de culte ici, mais dimanche prochain, on se retrouve tous, comme on a l'habitude de le faire maintenant, au théâtre des Jazés. Ce sera aux deux cultes, 10h30 et 14h. 10h30 et 14h, c'est au niveau de la place de la République, pour ceux qui ne savent pas où cela se trouve. Merci. L'Assemblée générale ordinaire, dont le samedi 22 avril, à partir de 14h, notre Église tient son Assemblée générale ordinaire. Là, je lis un courrier qui m'a été donné. Notre Assemblée générale ordinaire annuelle aura lieu le samedi 22 avril 2017 à 14h. La convocation est affichée dans le hall et à l'étage de l'Église. Elle a aussi été envoyée aux membres de l'Église ayant communiqué une adresse mail valide. Si vous ne l'avez pas reçue, merci de le signaler à notre trésorier Jean-François, qui est juste là, qui bat dans le couloir à gauche avec une chemise. Seuls les membres ayant renouvelé leur adhésion pour 2017 peuvent participer à cette AGOA. La liste des membres de l'Église à jour au 19 mars qui concerne ceux qui ont renouvelé leur adhésion pour 2017 est affichée dans le hall et à l'étage. Si vous êtes membre et vous ne trouvez pas votre nom, vous êtes invité à informer le trésorier Jean-François ou à l'un des pasteurs. Pour que cette Assemblée générale puisse valablement délibérer, il faut qu'il y ait un minimum de membres présents ou représentés. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas venir à cette Assemblée générale, vous êtes invité à vous y faire représenter. Donc à cet effet, il a été réalisé un formulaire de procuration d'un pouvoir. Juste dans le présentoir, juste en face de moi, vous avez une rangée avec des feuilles en blanc et une partie en gras écrit en rouge. Donc c'est des pouvoirs pour lesquels, ou des procurations pour lesquelles vous pouvez mettre, qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez nous les retourner à l'entrée, juste à l'entrée du culte. Je pense que je me perds un peu dans mes notes, dans les notes. Je crois que c'est bon. Donc, Assemblée Générale, samedi 22, à partir de 14h. L'inscription au baptême, à la préparation au baptême. Donc, on démarre une nouvelle session de préparation au baptême. On était réjouis de la dernière. Et donc, on invite vraiment tous ceux qui sont intéressés à s'engager dans les eaux du baptême. Vous voulez aller beaucoup plus loin avec Dieu. On vous invite tous vraiment à nous rejoindre plutôt le dimanche 23 et le dimanche 30 avril pour Bastille à 14h. Ce sera juste dans la cuisine qui est juste là-haut. Donc dimanche 23 et dimanche 30 avril à partir de 14h, il y aura un temps de préinscription. Donc tous ceux qui veulent s'engager dans les eaux du baptême, vous êtes invités et on prendra le temps d'échanger avec vous par rapport à cela. Les indicateurs. Donc cet après-midi à partir de 16h, le département des indicateurs. Alors c'est quoi? Vous le savez déjà un peu plus. Le département des indicateurs, c'est pour ceux qui découvrent la foi. On veut être des indicateurs pour ceux qui découvrent la foi. Peut-être qu'ils ne savent pas prier, ils ne savent pas qui est Jésus, qui est Dieu, comment lire leur Bible. Peut-être qu'ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Peut-être vous posez des questions par rapport à cela. Alors ce département est là pour vous accompagner dans votre cheminement. Bien sûr, il nous concerne ceux qui ne sont pas encore baptisés, parce que c'est des gens finalement qui découvrent la foi. Donc si vous êtes concerné et voulez en savoir un peu plus,
Alors on veut juste être à votre disposition, donc c'est cet après-midi à partir de 16h. Ce sera juste dans la salle des petits pouces, donc si vous montez l'étage, c'est juste en face, près des toilettes des hommes. Donc c'est aujourd'hui à partir de 16h. Recrutement pour le département de l'accueil des nouveaux. Donc il y a un département d'accueil des nouvelles personnes. L'accueil des nouvelles personnes, c'est vraiment ce département qui a pour but, pour toute nouvelle personne qui arrive à l'église, vous voulez savoir un peu plus sur l'église, vous voulez être intégré dans l'église, vous posez des questions. Généralement, ils se tiennent à la sortie du culte et pendant une demi-heure après le culte, essayent de présenter l'église, donner des différentes informations pour ceux qui en ont besoin. Donc ils recrutent en ce moment. Et à la sortie du culte, il y a Jonathan qui est là, qui sera juste à l'entrée de l'église. Et si vous voulez rejoindre ce département qui a besoin d'aide, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher de lui par rapport à cela. La dernière annonce, je vais bientôt y arriver. La sortie des enfants Move Kit. Donc ce sera le week-end du 13 au 14 mai à Oulgat. Des informations complémentaires seront données par les animateurs à vos enfants. Donc si vos enfants participent au sein de Move Kit, les moniteurs vont leur donner différentes informations par rapport à ce week-end qui est organisé du 13 au 14 mai à Oulgat en Normandie. Et la dernière, c'est où on vous invite pour les offrandes, à donner vos offrandes dans le cran qui est en bois devant moi ou juste celui qui est en dessous de l'escalier. Et pour les œuvres sociales et les actions de l'église, c'est juste dans le tronc à gauche. Et je rappelle juste que pour tout ce qui est chèque, on vous recommande de pouvoir adresser cela à l'église évangélique Paris Métropole, EEPM. Je crois que j'ai fait le tour. Merci de votre attention. Je vais prier vraiment pour ces offrandes-là et aussi pour le message. Père, merci pour ces moments de qualité que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci pour ces offrandes que nous apportons à ta maison avec joie. Nous te prions de les bénir abondamment. Nous prions que tu bénis tous ceux qui prennent le temps, Seigneur, et qui prennent aussi cette générosité de donner. Nous prions que tu les bénis en retour et qu'ils ne manquent de rien. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui vont utiliser cet argent. Nous prions que tu donnes de la sagesse, de la diligence, mon Dieu, aussi pour continuer à faire avancer ton royaume. Je prie pour Pierre qui apporte le message ce matin, mon Dieu, remplis-le de ta grâce et que, mon Dieu, toute ta parole, Seigneur, encore soit déversée au travers de lui. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.
Merci. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Qui est venu en voiture ce matin? Qui l'a regretté? Ouais, je comprends. Il a fallu passer les barricades. Bref, un vrai marathon, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je voudrais ce matin commencer une courte série de deux messages que j'ai intitulé dans son grand ensemble « Je suis prêt ». Et permettez-moi d'étayer cette réflexion au fur et à mesure. Mais je voudrais commencer par une première partie. La première partie de cette série, je l'ai intitulée, je lui ai donné un titre particulier qui est tout simplement l'école Lion et Ours. Et cette école est particulière, c'est une école, une formation, c'est une école, je pourrais dire, de théologie, où nous allons apprendre à découvrir ce qu'elle est et comment Dieu se sert de cette école pour nous former. Mais peut-être en introduction de cette première partie qui est l'école Lion et Ours, peut-être certains la connaissent, cette école déjà, savent peut-être déjà où je vais en venir. J'aimerais introduire et vous présenter l'école biblique dans laquelle je suis allé il y a presque 15 ans de cela maintenant. Je suis allé dans une école biblique en Angleterre et le nom de cette école biblique c'est l'IBTI, International Training Bible Institute. Et vraiment, quand je réfléchissais à l'époque de partir dans cette école, j'avais une réflexion un petit peu étroite. Parce que moi, ce que je voyais dans cette école biblique, c'était la possibilité d'apprendre, d'approfondir mes connaissances, de voir ce que Dieu pouvait me montrer au travers d'enseignants de qualité. Et vraiment, je me disais, Seigneur, je vais repartir encouragé, plein de connaissances. Et puis, lors des premiers jours de cette école biblique, nous avons une cérémonie d'introduction qui est très intéressante, où on nous présente un peu plus amplement l'école et où on nous présente ce que veut dire la IBTI. Oui, c'est une école internationale. Je me rappelle, un des directeurs était là sur l'estrade et nous présentait cette école biblique et nous disait, oui, c'est une école internationale, oui, c'est un institut de formation, oui, c'est une école où vous allez approfondir vos connaissances bibliques. Et puis à un moment donné, il s'arrête sur training. Et training, ça veut dire formation, ça veut dire préparation, ça veut dire entraînement. Et vraiment, c'est le mot que j'ai zappé. Clairement, j'avais vu école biblique, j'avais vu institut, j'avais vu international, mais le mot training, je l'avais complètement zappé. Et il insiste lourdement sur le mot « training ». J'ai compris pourquoi. Parce que c'est une école qui a pour vocation de former des ministères. Et c'est vrai que par moments, vous aurez des écoles bibliques qui vont vous apprendre et vous donner de la connaissance et qui ont par moments pour vocation de former ou en tout cas de donner des informations, vous enrichir théologiquement. Mais cette école a fait de sa vision, de sa vocation, celle de former des personnes au ministère. Et j'ai vite compris de quoi il parlait. Et j'ai compris pourquoi ils l'ont introduit. Et je me suis retrouvé dans des situations, et nous nous retrouvions en tant qu'étudiants dans des situations où, par exemple, nous avions plein de devoirs à rendre, devoir prêcher le soir, avoir des travaux toute la journée, être fatigué, épuisé. On commençait nos journées à 7h, on les finissait à 23h, mais on était mort. Et par moments, on se retrouvait dans des situations tellement compliquées qu'on allait voir les directeurs et qu'on leur disait « On n'en peut plus !» On n'en peut plus. Et je me rappelle, une fois, j'étais allé voir Johnny White, qui est un des directeurs de cette école biblique, et qui est un Écossais. Et je me rappelle être venu voir Johnny White en lui disant « Mais je peux plus, on n'en peut plus, on a trop de travail, mais vous nous en demandez trop. » Et je me rappelle de la tête de Johnny White, il est rouquin, il a une belle moustache rousse, me faire un grand sourire et me dire avec son accent écossais « Training !» Training. Et je le vois sourire encore. Training. Every. Et quelque part, je me rappelle d'une expression qui courait dans notre école biblique, parce que nous avions des expressions, vous savez, quand on est étudiant. Et souvent, on se disait les uns et les autres, on est content d'aller à la IBTI, mais on est heureux d'en repartir. Vraiment. Et avec beaucoup de recul, je pourrais parler de mon école biblique en vous disant « Oui, l'enseignement est de qualité. » Et oui, c'est le cas. Oui, on approfondit beaucoup de choses avec Dieu. Oui, c'est le cas. Mais ce que je pourrais dire avec beaucoup de recul aujourd'hui, c'est que c'est une école biblique qui a pour vocation de former des ministères. Et je trouve ça tellement pertinent d'avoir cette vision-là, cette réflexion, que finalement, on peut être une école biblique qui donne plein d'informations, mais cette école biblique a pour vocation de former des ministères. Et cette vision-là est tellement, et correspond tellement à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Cette vision-là correspond tellement à ce que Dieu entreprend par moments dans nos vies. Cette idée-là de nous former. Et elle répond tellement à un principe que je voudrais partager très rapidement avec vous, il va s'afficher dans quelques instants, un principe théologique, un principe spirituel, un principe divin. Dieu ne t'enverra pas dans son projet pour ta vie, dans ton appel ou dans ta destinée. C'est un mot très à la mode, destinée. Mais lisez la suite. Sans t'y avoir préparé. Ouais. Et par moments, on a cette compréhension des choses, on veut vivre certaines choses avec Dieu. Peut-être même on a cette réflexion de dire « Ah Seigneur, quand est-ce que ma destinée, quand est-ce que je vais rentrer dans ton plan ? Tu as déposé des choses sur mon cœur, ça ne se passera pas. » Si Dieu ne t'y prépare pas. Oui ? Vous pouvez dire amen à ça ? Et ça se vérifie. Vous savez, ça se vérifie parce que l'Écriture est pleine d'hommes et de femmes que Dieu a appelés. De plein d'hommes et de femmes que Dieu a appelés à son service, que Dieu a appelés à le servir. Et la plupart d'entre eux, Dieu a pris le temps de les préparer. Dieu a pris le temps de les former. On pourrait parler d'Abraham. Abraham qui, un jour, Dieu va l'appeler, va lui dire « Abraham, donne-moi ton fils, Abraham, qui va monter sur le mont Morija. » Et là, sur ce mont Morija, Dieu va le mettre à l'épreuve, cet homme va lui dire « Donne-moi ton fils !» Il faut être accroché, mes frères et sœurs. C'est une formation. C'est une formation par laquelle Dieu permet que nous passions. Je pense à Moïse. On voit Moïse prince, on voit Moïse devenir l'homme de Dieu extraordinaire, partageant la mer Rouge. Mais on oublie que Moïse a passé entre le moment où il est sorti d'Égypte et où il est devenu le leader d'Israël. On oublie que Moïse a passé 40 ans dans le désert à être berger. Et sans doute que c'est pendant cette période-là que Moïse a appris, que Moïse a compris, que Moïse a été formé à la tâche qui l'attendait. Dieu l'a formé en tant que berger pour devenir le berger d'une plus grande nation. On pourrait parler de Joseph. Et souvent on parle de Joseph et souvent on fait allusion à la vie de cet homme. Mais la formation de Joseph a duré plus de 20 ans. entre le moment où Dieu lui donne des rêves et où il devient responsable de l'Égypte, des années vont passer à la formation. On pourrait parler de Ruth, on pourrait parler de Paul. Paul qui va dire à un moment donné, dans Galates, je crois que c'est au chapitre 1er, Paul va dire à un moment donné que, alors qu'il Dieu l'appelle et qu'il commence à prêcher, il va risquer sa vie, il va presque mourir, il nous est dit qu'il va partir en Arabie. Et la plupart des théologiens pensent que Paul va rester des années en Arabie, dans le plus grand secret, à méditer, à approfondir sa connaissance, à vraiment approfondir sa relation avec Jésus. Même Paul va prendre ce temps-là. On pourrait parler des disciples qui vont passer 3 ans au pied de Jésus à être enseignés. Et puis, Jésus lui-même. Et là, je pourrais vous dire que Jésus, si Jésus y est passé, pourquoi pas nous ? Et quand on regarde la vie de Jésus, et en particulier un détail m'a souvent parlé, j'ai prêché déjà là-dessus, mais il y a ce texte dans Marc chapitre 1 verset 18 où il est dit, et c'est Jésus qui sort du baptême, Jean-Baptiste vient de le baptiser, et il sort de l'eau, et là, aussitôt, le texte dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Ouais. C'est pas le diable qui pousse dans le désert. C'est pas l'ennemi de son âme, c'est pas non plus des personnes qui vont le pousser dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui le pousse dans le désert. Ouais. Très honnêtement, on vous laisse le choix. Est-ce que tu veux rentrer dans l'épreuve? Est-ce que vous y allez volontairement? Ah ouais, Seigneur, trop bien. Le désert, ouais, je kiffe. Ah, pas besoin. Et vous savez, Saint-Esprit, par moment, va vous pousser. Et Jésus, c'est ce qui va se passer. Pardonnez-moi, il nous a dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert, le Saint-Esprit. Et là, il va y passer 40 jours. Il n'est pas resté dans le désert pour fixer sa vitamine D non plus. Hein. Satan y attend. Génial. C'est de mieux en mieux. Et puis on poursuit, non seulement il est dans le désert, non seulement Satan y est, mais il y a des bêtes sauvages qui sont là. De mieux en mieux. Et puis les anges le servaient, en effet. Mais la vue d'ensemble de ce que Jésus va vivre dans ce passage-là, voyez-y comme un temps que Dieu a mis à part pour Jésus afin de se préparer. Et vraiment, je vois dans ce passage-là un temps où Jésus est préparé en vue de Gethsémané. Ce n'est pas une étape hasardeuse, ce n'est pas non plus un exercice comme ça qui est passé par la tête du Père, non. Lorsque Jésus est poussé dans le désert, il y a un objectif, il y a une finalité, être prêt pour Gethsémané, être prêt pour la croix. C'est dans ce moment-là particulier que Jésus va être imprégné de la personne de Dieu, mais va jeûner, va se retrouver tenté, va se trouver sous pression, et où Dieu va le former en vue de ce qu'il attendait. Jésus a été formé à la tâche qu'il attendait. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, qu'il y a un principe spirituel avant même de nous lancer dans notre destinée, dans son plan, dans son projet pour nos vies. Dieu va t'y préparer. Ce matin, et permettez-moi d'aller plus loin dans la réflexion, un personnage biblique m'a particulièrement interpellé et je voudrais m'arrêter ce matin sur lui car son témoignage est révélateur de plein de choses et je voudrais m'entretenir avec vous du jeune David. Lorsqu'on pense au jeune David, très rapidement nous voyons ce garçon vaincre Goliath et c'est une des plus belles victoires, une des plus belles batailles qu'Israël va remporter et on voit très bien ce jeune garçon affronter Goliath et cette victoire à bien des égards, pourrait éclipser un détail, un petit détail, un élément peut-être insignifiant dans un récit. Et ce récit, c'est le fait que David, dès son jeune âge, va intégrer l'école Lion et Ours. Et c'est David qui va en parler. C'est David qui va, à un moment donné, va avoir un échange avec le roi Saül. Rappelez-vous ce contexte. David apporte de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille. Et il entend Goliath parler. Et à un moment donné, David, dans son cœur, sent que c'est le moment pour lui. Il sent que c'est le temps et il va aller s'adresser à Saül. Il va y avoir cet échange avec Saül un peu particulier. Et alors qu'il va y avoir cet échange qui va s'afficher dans quelques instants, David va faire référence à cette école. On va la lire ensemble. 1 Samuel chapitre 17, verset 33. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. » Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Verset 36, « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même, il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Verset 37, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. Amen !» Lorsqu'on lit ce récit, lorsqu'on lit ce que David va dire au roi Saül, on comprend que très tôt, David va intégrer cette fameuse et prestigieuse école qu'est l'école Lion et Ours. Et vraiment, lorsqu'on comprend et lorsqu'on réalise le récit, quand on comprend par quoi David est passé, on réalise des tas de choses, parce qu'on pourrait s'arrêter sur la victoire que David va remporter face à Goliath. Et oui, c'est une belle victoire. Mais combien c'est important de réaliser qu'avant de vaincre Goliath, David a vaincu le lion et l'ours. Et très honnêtement, ça pourrait paraître insignifiant, mais de la façon dont David a vaincu le lion et l'ours, je trouve que l'exploit est bien plus grand que d'avoir vaincu Goliath. Et c'est pour ça que je trouve que, quelque part, on pourrait faire une montagne de la victoire de David face à Goliath, oui. Mais de la façon dont David a vaincu le lion et l'ours, moi je suis un peu plus encore émerveillé. Et je suis vraiment frappé par quoi David, dès son jeune âge, est passé par le lion et l'ours. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a des statistiques. Et le lion, en particulier le lion et l'ours, font partie du top 20 des animaux sauvages qui tuent encore des hommes aujourd'hui. Je crois que le lion est 14e, avec 100 morts par an. Alors devant lui, il y a l'hippopotame, il y a le crocodile, il y a l'éléphant et le moustique. Bon, ça c'est pour l'anecdote, hein, d'accord. Mais le lion fait encore partie aujourd'hui du top 20 des animaux qui tuent encore des hommes aujourd'hui. Et très honnêtement, lorsqu'on regarde les choses avec cette perspective-là, cette compréhension-là, c'est pas innocent ce que David a vécu. C'est pas un détail. Lorsque David est confronté au lion, quand David est confronté à l'ours, il est confronté à la mort, mes frères et sœurs. Un gamin de 16-17 ans qui, dans son quotidien, dans ce qu'il pouvait être amené à vivre en tant que berger, il était amené à se confronter à la mort. Et moi, j'aimerais poser une question ce matin, parce que par moments, on pourrait vivre, beaucoup d'entre nous pourraient vivre des choses, une vie de chrétien, où finalement, Dieu permet que nous soyons dans une paix. Mais pour d'autres, Dieu va permettre que nous passions par des temps difficiles, que nous soyons confrontés à l'ours, que nous soyons confrontés au lion. Des temps où la mort nous frôle, la mort est tellement proche de nous qu'elle vient presque sur notre cou soufflé là, on sent la mort tellement proche de nous. On la sent, nous entourer, on est comme ce texte de David qui va dire à un moment donné, et je comprends pourquoi il va prêcher ça, je comprends pourquoi David il va prononcer ces paroles. Dans le psaume 23, « Quand je passe par la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien, car tu es là. » David savait de quoi il parlait, et pour beaucoup d'entre nous ce matin, lorsque je parle du lion et de l'ours qui nous frôle, qui nous approche, qui nous suit quasiment, il y en a pour qui ce matin, le lion et l'ours, c'est le quotidien. Au travers de la maladie, au travers d'un combat, au travers de situations particulières dans ta famille, la maladie, la mort est là, elle te frôle, elle t'entoure, elle est tellement proche. Peut-être pour certains, c'est parce que tu as échappé d'un accident mortel. Peut-être pour d'autres, c'est des situations tellement difficiles, tellement compliquées. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le cancer, peut-être c'est le désespoir, peut-être c'est la dépression. Tu sens la mort te frôler. Tu la sens être tellement près de toi. Tu connais cette école, hein? Elle est dure parce que Dieu n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et s'il y a bien une chose que David pouvait dire, et lorsqu'on a la compréhension, et peut-être ce matin tu as la compréhension de ce que vit David, parce que quelque part David n'a pas la finalité de ce qu'il vit. Nous savons que Goliath va venir. Nous savons pourquoi David passe par ça. Mais toi, et David ne savait pas par quoi, et pourquoi il passait par tant de choses.
t'enchaînes le lion et l'ours. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi je vis ça? Et je peux vous dire que David, petit berger de 17 ans, peut-être dans sa tête, a dû dire à un moment donné, mais pourquoi, Seigneur, tu permets que je combatte le lion et l'ours? Pourquoi la mort me frôle de si près? Une des vérités, mes frères et sœurs, c'est que l'école de lion et l'ours, et c'est mon premier point ce matin, c'est que c'est l'école de tous les dangers. C'est l'école où Dieu permet que la mort nous frôle. C'est l'école où nous voyons les difficultés peut-être être tellement grandes. Et peut-être, et c'est ça mon point principal ce matin, une chose très importante, c'est l'école où tu vas peut-être apprendre à plier le genou. Et tu ne vas pas plier le genou parce que la patte du lion ou la griffe du lion ou la patte de l'ours est sur toi. Tu vas plier le genou parce que tu vas comprendre et apprendre que dans la prière et dans la puissance de la prière, tu trouveras la victoire dont tu auras besoin. C'est l'école où par moment, face où tu te retrouves sous pression, où la mort te tient prêt. Vous savez, c'est des écoles particulières où on en vient à comprendre l'essentiel dans nos vies spirituelles, où on en vient à comprendre que la prière est notre seule force, notre seul secours, parce que face à la mort, personne ne vient t'aider, si ce n'est l'Éternel. C'est des temps où tu comprends qu'à genoux dans la prière, en criant vers Dieu, ton secours viendra de lui. C'est des temps où tu comprends la puissance qui se dégage d'une relation avec Dieu. C'est des temps où tu comprendras que seul le secours vient de lui. Parce que quand personne ne peut t'aider, quand la mort te frôle, quand la maladie est là et que personne n'est là pour te secourir, c'est des temps où le secours ne vient que de l'Éternel. Oui, c'est des temps, en effet, de tous les dangers, mais c'est des temps où tu apprends le combat dans la prière, c'est des temps où tu te tiens à genoux, où tu saisis le lion et l'ours par la gorge, où tu le frappes et où tu le tues. C'est pas des temps où Dieu t'appelle à subir la griffe du lion ou la patte de l'ours, mon frère, ma sœur. Mais c'est des temps où tu apprends à être victorieux dans le combat spirituel. Oui, c'est une école difficile. Oui, c'est une école de tous les dangers. Mais c'est une école où tu apprendras la puissance de Dieu. C'est une école où tu apprendras qu'avec Dieu, tu peux vivre l'extraordinaire. Deuxième point. L'école lion et l'ours, c'est l'école de l'extraordinaire, mes frères et sœurs. Regardez ce qu'il est dit. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. C'est un gamin de 17 ans qui parle. Et moi, je suis frappé de la maturité spirituelle de ce gamin. Il est mûr, il est prêt. Et on sent que dans ses paroles, tout est mesuré, il sait sa place, il sait ce qu'il est capable de vivre et il connaît les exploits qu'il peut remporter grâce à l'Éternel. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque nous avons vaincu un lion, lorsque nous avons vaincu un ours, par la grâce de Dieu, on ne voit plus les choses de la même façon. Non ? C'est pas possible. Quand nous avons vu la main de Dieu agir, quand nous avons vu sa puissance se manifester en nous et par nous, nous ne regardons plus les autres lions, les autres ours de la même façon. Notre foi est fortifiée, n'est-ce pas? Notre foi est encouragée. Aussi, quand on voit un autre lion ou un ours se rapprocher, on lui dit, « Hey, il y en a deux autres qui sont passés avant toi. Viens. » Alors peut-être qu'on ne prend pas les choses en rigolant, mais je peux vous assurer qu'on a une assurance et une foi différentes. Et dans le cœur de David, lorsqu'il voit Goliath s'approcher, il est en train de dire, « Hey, il y a un lion et un ours qui traînent là-bas. Je les ai eus et je vais t'avoir, toi. » Vous savez, mes frères et sœurs, quand Dieu permet que nous passions par le lion et l'ours, c'est pour fortifier ta foi. Et il va la fortifier au point d'être à un moment donné comme David, face à un Goliath, et avoir la foi de croire que là, par la puissance de Dieu, tu peux le déborder. Tu peux l'anéantir. C'est ce que David est en train de dire à Saül. Il m'a délivré de la patte du lion et de l'ours.
il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. La foi de David est renforcée. Et j'aimerais te dire une vérité, s'il n'y avait pas eu le lion et l'ours avant, David n'aurait jamais abordé Goliath. Jamais! Mais parce que Dieu a permis à David de passer par l'école lion et ours, David s'est retrouvé sur une position de foi, sur une stature de foi spirituelle suffisamment grande, suffisamment établie pour pouvoir provoquer celui qui provoquait l'éternel Dieu des armées. Waouh ! Dieu va te faire passer par l'école lion et ours afin de t'amener à une stature spirituelle que tu n'as pas. Et si peut-être aujourd'hui tu es confronté au lion et l'ours, Dieu est aux commandes. Dieu est au contrôle et il va se servir du lion et l'ours pour t'amener à une maturité spirituelle suffisante pour voir les Goliaths arriver devant toi et ne point trembler devant eux parce que tu es sûr dans ton cœur que l'Éternel te délivrera de la main du Philistin. Amen. Troisième point, c'est l'école de l'incroyable. Oui, c'est l'école de tous les dangers. Oui, c'est l'école de l'extraordinaire, mais c'est aussi l'école de l'incroyable. Il y a quelque chose d'incroyable dans le récit de David. Vous permettez qu'on le relise ensemble ? Voilà ce qu'il nous est dit. Voilà le récit que David va dire à Saül. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, c'est là que ça commence à être particulier. Je courais après lui. » C'est vrai que ça nous arrive à tous de courir après des lions. Passons. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. C'est vous dire la taille de la bestiole. Parce que souvent, on aurait tendance à minimiser les bêtes qui ont attaqué David. Et je vais en reparler dans quelques instants. Mais je ne sais pas si vous connaissez la taille d'une brebis. On a peut-être en tête la taille d'un agneau. Mais une brebis, c'est énorme. C'est énorme. Et c'est vous dire la taille du lion et de l'ours qui se baladent en courant avec une brebis dans leur gueule. Enfin bref, on continue. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Hein ? Ouais, c'est déjà pas mal. Parce qu'un lion, ça fait 200 kilos, à peu près. Quand un ours, ça fait 300. David devait faire à peu près 70 kilos. Continuons. Je le frappais, je le tuais. Ok, maintenant, David passe une longue journée, peut-être une longue nuit, dans les champs à garder les troupeaux de papa. Et le soir, ou le lendemain matin, au petit déjeuner, vous savez, il y a les réunions de famille où tout le monde se réunit pour prendre le petit déjeuner ensemble, c'est la midi du petit déjeuner, machin, toute la famille est là, il y a le jus d'orange et tout. Et puis j'imagine David rentrer exténué, mais il a vaincu le lion. Et là, toute la famille est réunie, ils sont tous heureux de se retrouver. David revient des champs, il est fatigué, mais il est content parce qu'il a vaincu le lion. Et vous savez, c'est le genre de repas de famille ou de petit déjeuner où on raconte son histoire. Et là, il y a la maman de David qui tourne vers son fils. « Alors, mon chéri, comment s'est passée ta nuit ?»« Maman !» Et là, il y a tous les frères de David. Vous savez, ils étaient un paquet. Hein. Et il y a tous les frères, il y a le papa. Et là, David commence à raconter son histoire. « Ah bah écoutez, ma nuit, c'était vraiment particulier. J'ai gardé les troupeaux. Et là, pendant la nuit, il y a un lion qui est arrivé. Ah bon ? Ouais, il a pris une brebis. Ah bon ? Et j'ai couru après lui. Waouh ! Et qu'est-ce que t'as fait ? Bah écoute, je l'ai frappé. D'accord ? Et puis, il a lâché la brebis, je l'ai récupérée. Elle est là, regarde, elle est blessée, mais ça va bien. Et puis là, le lion se dresse contre moi. Waouh ! Et qu'est-ce que tu fais ? Tu fuis ? Non, 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 je le prends par la gorge, je le frappe et je le tue. Ah bon ? Ok. Si ça n'arrivait qu'une fois, il va vaincre l'ours, d'accord ? Et puis on se retrouve, 6 mois plus tard, à un autre repas de famille. David arrive des champs exténués. La maman de David dit à David, « Alors comment s'est passée ta journée, mon chéri ?» « Oh maman, si tu savais !» Et là, il y a tous les frères de David qui sont là, il y a le père de David qui est là, et tout le monde est en train d'attendre l'histoire de David. Et David commence à raconter son histoire, « Voilà, j'étais dans les champs !» Ah bon ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, le troupeau était calme, et puis là, il y a un animal sauvage qui survient. Puis là, il y a le frère aîné de David, Et là, c'est un ours qui t'a attaqué. Ouais, c'est ça. Et l'ours, il a embarqué une brebis. Oui, t'as tout compris. Et t'as couru après, d'ailleurs. Oui, oui, j'ai couru après. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as libéré la brebis? Oui, oui, j'ai libéré la brebis. Et puis alors, il s'est dressé contre moi, l'ours. Oui, tu l'as frappé et puis tu l'as tué. Ben voilà, t'as tout deviné. Vous savez, des fois, on vit des trucs tellement incroyables avec Dieu que ça n'en devient pas croyable. Ouais? D'accord? Et des fois, lorsqu'on vit des choses extraordinaires avec Dieu, et c'est le cas, David va vivre des choses extraordinaires avec Dieu, que personne ne va le croire. Personne ne va le croire. Moi, je peux vous dire, si je suis une maman juive, que chez mon fils, en train de combattre un lion et l'ours, je ne le fais plus sortir de la maison. Or, sa mère va permettre que David y retourne. Pire, ils ne vont tellement pas le prendre au sérieux que quand Samuel va venir pour oindre David, pour devenir roi. Rappelez-vous de cette scène, Samuel rentre dans la famille d'Isaï, il est là. Et le père de David va réunir tous les frères de David, sauf David. Non seulement ils ne le prennent pas au sérieux, mais ils pensent que quelque part, surtout pas lui, c'est pas le bon gars, on va l'oublier dans les champs, ça doit être forcément un des autres. Il ne croit pas. Et lorsque Samuel va faire le tour des frères, il va se rendre compte qu'il manque celui que j'ai appelé. Ils vont être obligés d'aller chercher David dans les champs. Ils ne le prennent pas au sérieux, ils ne le croient pas. Et ça va tellement, tellement loin cette histoire, parce que le grand frère de David, Eliab se retrouve sur le champ de bataille. David arrive pour nourrir, amener de la nourriture à ses frères. Et c'est comme ça que ça va se passer. David arrive sur le champ de bataille. Il est là pour donner de la nourriture à ses frères. Il voit le géant, il voit Goliath en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Et là, David se dit dans son cœur, mais il faut faire quelque chose, je vais intervenir. Et il commence à poser des questions autour de lui. Et il tombe sur son frère, grand frère aîné, Eliab. Ouais. Vous allez voir, on a tous des Eliab. Hein. Et à un moment donné, alors qu'Eliab est là, il entend son frère raconter ses histoires. « Ah, mais moi, je vais aller vaincre Goliath, j'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours. » Alors, si ça les faisait rire à table, quand son frère, petit frère, est en train de raconter ses histoires, qu'est-ce que fait Eliab? Il prend son frère. « Viens là, mon gars, on va s'expliquer tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de dire? » Regardez cet échange. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit mais pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et notez bien ce qu'Eliab va dire, je connais ton orgueil. Il pensait que David était en train de raconter des histoires. Ils n'ont jamais cru David quand David parlait d'avoir vaincu le lion et l'ours, jamais. Pire, ça cataloguait David au sein de la famille comme un être bizarre avec des... Il n'est pas très net, David. Hein. Et vous allez voir que ça va très très loin. Parce que non seulement il va le traiter d'orgueilleux, mais en plus il va le dire t'es malicieux. Vous savez ce qu'Eliab est en train de dire? On connaît toutes tes histoires, on connaît tous tes mensonges, on sait tout ce que tu nous as raconté. Je le sais, tais-toi! C'est pourquoi... C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Vous savez, des fois, à l'école Lion et l'Ours, tu vas vivre des exploits. Et là, je vais m'adresser à certaines personnes parce que c'est tellement violent ce qu'on peut vivre dans nos familles, par rapport à nos amis, par rapport à nos relations. On vit des exploits avec Dieu. Et puis, à un moment donné, on part du principe, on dit, oui, il faut témoigner, il faut dire. Et oui, on témoigne, on dit la vérité, mais on se retrouve comme David. Face à des murs d'incrédulité, face à des personnes qui sous-estiment ce qu'on vit, face à des personnes qui pensent que ça n'a rien à voir. Vous savez, pour David, ça va tellement loin que même des commentaires, des gens, des spécialistes de la Bible sont allés dire que David avait vaincu des lions nains. Même aujourd'hui, des commentaires bibliques pensent que David a vaincu des gros chats. Pourquoi on ne veut pas croire que David a fait un exploit par la puissance de Dieu? Tel que c'est écrit. Il a vaincu un lion, il a vaincu des ours, il a vaincu des lions, il est passé par l'école lion et ours, tel quel. Et il ne l'a pas fait parce qu'il était fort, il ne l'a pas fait parce qu'il était puissant, il ne l'a pas fait parce qu'il était agile, il l'a fait parce que Dieu était avec lui.
Et avec Dieu, on peut faire des exploits. Avec Dieu, on peut vaincre le lion. Avec Dieu, on peut vaincre l'ours. Seulement par moments, mes frères et sœurs. C'est tellement incroyable que ça n'en devient pas croyable. Qui de nous ne s'est pas retrouvé dans la situation à raconter des exploits et se retrouver tellement incompris, rejeté, parce que ça n'est pas croyable. C'est ce que David va vivre. David va vivre l'incompréhension de sa famille, de son père, de sa mère, de ses frères. Ils ne vont pas le croire. Peut-être a-t-il essayé d'expliquer, peut-être a-t-il essayé de prouver les choses, mais comme il était seul à chaque fois, comment pouvait-il justifier qu'il a vaincu le lion et l'ours? Comment peut-il justifier qu'il a pris le lion par la gorge, qu'il l'a frappé, qu'il l'a tué? Personne n'a vu. L'école Lion et l'ours, c'est une école de l'humilité, c'est une école où ça se passe entre Dieu et nous. C'est une école où, combien c'est difficile par moment de pouvoir expliquer les exploits que Dieu nous permet de vivre. Combien c'est difficile à un moment donné. Et même, vous savez, des fois, on en arrive à dire, bon, cet exploit-là, je vais me le garder pour moi. Vaut mieux peut-être. Parce qu'on ne va pas me prendre au sérieux. Et peut-être dans le cœur de David, il en est arrivé à cette réalité où, quelque part, les perles que Dieu lui permettait de vivre, il a refusé de les livrer au pourceau. Ok. Quatrième point. L'école Lion et l'ours, c'est l'école qui va te préparer à vivre l'exploit. Et c'est ça qui est important de comprendre ce matin, c'est ça qui est important de réaliser, c'est l'exploit. Et vraiment, le texte est d'une clarté juste magnifique. Je l'ai décortiqué de la façon suivante. 1 Samuel chapitre 17, verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande angoisse. Cet homme, c'est Goliath. Goliath est là, immense, grand, puissant. Et toute l'armée d'Israël, pas un seul homme n'a le courage d'aller l'affronter. Il fuit devant lui. Mais vous savez quoi? David arrive. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête de David? Oui, on a la réponse. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» C'est hallucinant la réponse de David. David n'est pas en train de se poser la question s'il va aller combattre Goliath. Il est juste en train de se dire « Ouais, qu'est-ce que je vais gagner ?» Il n'est pas en train de se poser la question si Goliath pourrait avoir le moindre doute ou avoir une réflexion. « Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Est-ce que ça ne va pas être trop ?» Non, David est déjà dans la projection de ce qu'il va gagner. Il est déjà dans la projection de la récompense. Aussi, on lui dit oui, sa famille va être bénie, il va être riche. Et David en s'engrange tout ça, mais David n'est pas en train de se poser la question. Là où tout le monde fuit, pour David, c'est déjà une évidence. Oui, c'est une évidence. Dieu est en train de te préparer à l'exploit. Et face à Goliath, où personne ne pourra ouvrir la porte parce que imaginez Goliath comme une porte avec une serrure. Et là où tout le monde va refuser, ne va se retrouver dans l'incapacité d'ouvrir la porte, David, lui, va être façonné. Et quand il va se trouver devant Goliath, il n'y a plus de questionnement, c'est une évidence. Dieu est en train de te préparer à vivre l'évidence. Dieu est en train de te préparer à devenir la clé qui va ouvrir la porte. La porte du cœur de ta famille, la porte des cœurs de ceux avec qui tu travailles, la porte du cœur de ton église, la porte de ton pays, de ta nation, de ta tribu, de ceux vers qui Dieu t'enverra. Et là où tout le monde a refusé, là où tout le monde a échoué, parce que Dieu t'aura préparé, parce que Dieu t'aura fait passer par l'école Lion et Ours, il t'aura façonné afin d'être devenir la clé. Moi je vois cette image juste extraordinaire. Des fois je suis interpellé des choses les plus simples. Quand vous allez voir un serrurier pour faire un double de clé, vous savez, ils ont une espèce de meuleuse. Et cette meuleuse, elle façonne une clé. C'est toi la clé. Et le divin serrurier est en train de te calibrer. Est en train de limer au fur et à mesure. Est en train de prendre les crans, les arrondis, les pointes qui ouvriront la clé que toi seul pourras ouvrir. David est devenu la clé de délivrance de son peuple. Face à Goliath, alors que tous vont rejeter le combat, lui, c'est l'évidence. Dieu est en train de te préparer à vivre l'évidence. Alors oui, c'est l'école des lions et l'ours. Oui, c'est l'école où tu vas être confronté à la mort. Oui, c'est l'école qui va te frôler de près. Oui, c'est l'école de l'extraordinaire, comme c'est l'école de l'incroyable et du rejet. Mais c'est l'école où Dieu est en train de te préparer à l'exploit.
Et comme David, face à Goliath, face à ton Goliath, face à la porte qu'il aura définie pour toi, pour ce à quoi il t'aura préparé, ça deviendra une évidence. Tu vas rentrer dans la serrure et la porte va s'ouvrir. Et les années de rejet, les années d'incompréhension, les années où on se sera moqué de toi, où tu auras témoigné et tu auras partagé les exploits que Dieu t'aura permis de vivre, où on t'aura jamais pris au sérieux, où on t'aura méprisé, laissé dans un coin parce qu'on aura pensé que tu es fou, Dieu te justifiera. Dieu te justifiera. Il y a un temps, mes frères et sœurs, pour vivre l'école lion et ours. Et peut-être, dans notre cœur, on est dit et on est prêt à y aller, on est content d'en sortir. Mais c'est pour voir Dieu nous justifier. Et les années où peut-être ses frères se sont moqués des exploits que David a remportés, face au Goliath mort, la tête coupée, Dieu a justifié ce gamin de 17 ans, incompris et méprisé. Frère, ma sœur, l'école Lion et Ours est une école difficile. Peu pourraient y passer ce matin. Peu pourraient dire ce matin, je passe par ces temps-là tellement particuliers. Dieu est juste en train de te façonner. Dieu est juste en train de te préparer. C'est l'école de tous les dangers, où tu auras appris à plier le genou. Non pas pour voir l'ennemi avoir le dessus sur toi, mais pour t'amener à prier et crier vers l'Éternel, pour avoir la force de saisir le lion par la gorge, de le frapper et de le tuer. C'est l'école où tu auras appris à vivre l'extraordinaire, où ta foi va être vivifiée, où ta foi va être relevée, tant et si bien que face à Goliath, ta foi est renouvelée suffisamment pour dire « ce combat est pour moi ». C'est l'école du rejet et de l'incompréhension, c'est l'école de l'incroyable, où l'incroyable devient le pas croyable, où face à tes amis, tes relations, ceux qui t'entourent, tes discours te nuisent plus que ce qui t'élève. Mais Dieu viendra un temps où l'exploit auquel il t'aura préparé justifiera tout le reste. L'école lion et ours est une école difficile. L'école lion et ours, c'est l'école par laquelle Jésus est passé. Poussé par l'esprit dans le désert, comme David était poussé dans le désert par sa famille à garder les moutons. Jésus a rencontré l'ennemi comme David a rencontré le lion. Ce matin, je voudrais prendre un temps avec toi. Parce que si tu n'avais pas conscience de ce que tu vivais, peut-être ce matin, tu commences à comprendre. Tu enchaînais le lion et l'ours. La mort t'a frôlé de tellement près et te frôle encore aujourd'hui. Tu es peut-être en train d'apprendre à saisir le lion par la gorge, à le frapper et à le tuer. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de voir ta foi grandir. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train d'élever ta foi. Dieu est en train d'élever ton âme. L'école lion et ours, c'est l'école de l'incroyable. Tu vis le rejet à cause de ça. Tu vis l'incompréhension à cause de ça. Mais Dieu te justifiera, car il te prépare à l'exploit. Je voudrais qu'on puisse baisser tous nos fronts quelques instants. Je voudrais faire un appel, un court appel avec toi. Quand Jésus était dans le désert, poussé par l'esprit, l'ennemi était là, les bêtes sauvages étaient là. Il était dans le désert. Mais il nous a dit une chose, que les anges étaient là. Et ce matin, j'aurais pas la prétention d'être un ange, j'en suis pas un. Mais je voudrais être un frère et une sœur pour toi, dans le désert. Pour t'encourager à ne pas plier le genou sous la griffe ou la patte de l'ours, mais à plier genou pour trouver la force de saisir la gorge de l'ours et de lion pour le vaincre. J'aimerais être un frère dans ton désert alors que tu vis et Dieu veut t'amener à vivre un exploit, car aussi difficile que peut-être le lion et l'ours, Dieu est au contrôle et tu seras vainqueur. Si difficile que puisse être l'école, je veux être un frère, une sœur face au rejet de ceux qui ne te comprennent pas, qui ne voient que dans tes expériences peut-être des chimères ou des mensonges. Voyez peut-être en toi de la malice et de l'orgueil, alors que Dieu est juste en train de te préparer à l'exploit, à être la clé de délivrance pour ta famille, pour ton conjoint, pour tes enfants, pour ceux qui t'entourent. Dieu te prépare, Dieu polit ton âme, Dieu façonne ton être. Et cette clé qui n'avait pas de forme commence à prendre la forme de la serrure que Dieu veut que tu ouvres. Dieu justifiera, Dieu justifiera, et il t'élèvera en son temps. Maintenant, tu passes et tu es dans l'école Lion et Ours, et c'est dur. Je voudrais prier avec toi. Et alors que nous avons les têtes baissées, je voudrais juste t'inviter à te lever là où tu es. Juste là où tu es, lève-toi. On va prier ensemble. Tu n'es pas obligé de vivre l'école Lion et Ours seul. Tu n'es pas obligé de subir les brimades. Tu n'es pas obligé de vivre le rejet parce que tu vis l'exploit. Tu n'es pas obligé de combattre le lion et l'ours seul dans l'incompréhension la plus totale. Dieu est en train de te façonner, Dieu est en train de t'apprendre. Tu es en train d'apprendre à plier le genou et combien c'est dur, mais combien Dieu va te relever. Dieu est en train de t'apprendre à combattre celui qui pourrait t'anéantir. Oui, tu seras vainqueur, tu saisiras le lion et l'ours par la gorge. Tu le frapperas et tu le tueras. Alléluia. Esprit du Seigneur, tu es dans ce lieu. Tu es dans ce lieu, Jésus. Et alors que nos têtes sont baissées, tu vois les cœurs. Et combien cette école, et tu le sais, Jésus, combien cette école est difficile. Tu nous as dit dans ta parole que le Saint-Esprit serait avec nous chaque jour, chaque instant. Il est le paraclète. Et toi, Seigneur Jésus, tu nous as dit que tu serais avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Alors cet après-midi, je veux compter sur ta grâce pour mes frères et sœurs, pour mes bien-aimés qui vivent l'école Lion et Ours. Je prie que tu passes dans leur vie, je prie que tu passes comme un baume, que tu leur donnes de voir les perspectives spirituelles, les raisons pour lesquelles tu es en train de les faire passer par là. L'école Lion et Ours n'est pas une école en vain, n'est pas une école du test, c'est juste une école pour nous préparer à ce que tu as préparé pour nos vies. Il y aura une porte et elle deviendra évidente. Elle sera la résultante de tout ce que tu auras vécu. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il est en train de te former. Il est en train de te préparer. Et tu deviendras cette clé qui ouvrira la porte et qui justifiera tout le reste. Seigneur, je prie que tu viennes fortifier mes bien-aimés, que tu viennes fortifier mon frère, que tu viennes fortifier ma sœur. Pose ta main dans leur vie, pose ta main dans leur cœur. Manifeste-toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait commencer à lever nos voix tous ensemble vers Dieu? Et si tu as un frère et une sœur qui est levé à côté de toi, peut-être pose ta main sur lui, pose ta main sur elle. Si toi-même tu n'oses pas te lever, profites-en encore. Tu as besoin de la prière des frères et des sœurs. Il y a peut-être un ange dans cet auditoire qui est juste là pour toi, qui est juste là pour te soutenir dans ton désert, au milieu des bêtes sauvages, alors que tu es dans l'école Lion et Ours. Seigneur, viens poser ta main dans ses vies. Viens poser ta main dans ses cœurs. Viens renouveler, viens transformer, viens bénir. Viens renouveler dans les forces. Viens donner d'apprendre et de comprendre que Seigneur, dans cette position peut-être à genoux où on crie vers l'Éternel, c'est là que nous devenons suffisamment forts pour saisir le lion et l'ours et le vaincre dans le nom de Jésus. Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te préparer. Alors au nom de Jésus, viens au secours de tes bien-aimés ce soir. Viens au secours de ceux qui réclament et qui ont besoin de la prière pour être plus que vainqueurs, pour être et passer renouvelé, fortifié, encouragé, être prêt pour qu'on se confronter à Goliath. Au nom de Jésus, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Jésus. Amen et amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur Jésus ensemble? Est-ce qu'on peut se lever?
Les océans se déchaînent.
Jésus. Je saisirai le lion et l'ours. Je le frapperai, je le vaincrai. Au nom de Jésus,
je suis tranquille.
Alléluia.
Alléluia.
Amen. Je suis tranquille, je suis en paix, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Esprit de Dieu, pour les temps par lesquels, par moments, nous passons. Et Seigneur, je veux regarder à l'école Lion et l'Ours comme une opportunité que tu as de faire de moi un instrument de bénédiction, une clé de délivrance pour mon peuple, une clé de délivrance pour mon église, une clé de délivrance pour mon travail, pour ma famille, pour les miens, pour mon mari, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mes frères et sœurs, pour mes parents. Dieu est en train de façonner la clé. Et face à la serrure et la porte que Dieu dressera devant toi, aucun autre ne pourra l'ouvrir parce qu'il t'aura façonné. Et comme David, tu terrasseras le géant et Dieu justifiera qui tu es. Et par quoi tu es passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Que Dieu vous raccompagne. Et dans la meuleuse, gardez les yeux fixés sur lui. C'est lui qui nous façonne. À bientôt.